Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous allons évoquer le chant grégorien, chant propre à l'Église romaine, comme le précise le Concile Vatican II. Beaucoup de catholiques ou de personnes sensibles à l'art musical apprécient l'écoute du grégorien. C'est un chant qui apaise, qui appelle à l'intériorité et à la méditation. Mais est-il accessible pour tout le monde? Bref, le chant grégorien est-il facile à chanter? Nous en parlons aujourd'hui avec Frédéric Rentière, directeur musical et artistique. Il est spécialisé notamment dans le chant sacré médiéval. Bonjour à vous.
Bonjour Maxime.
Alors peut-être pour débuter cette émission, le chant grégorien est un chant qui a été fondé il y a, si l'on peut dire, il y a maintenant de nombreux siècles par l'Église catholique et, si je ne dis pas de bêtises, par Saint Grégoire le Grand.
Oui, alors de façon légendaire, oui, bien sûr.
D'accord.
C'est pas lui qui l'a fabriqué, même si effectivement c'est ce que Jean Diacre dit justement, un chroniqueur carolingien. Mais ça c'est, on va dire, l'aspect tutélaire, l'autorité en fait patriarcale qu'il fallait donner au chant grégorien. Mmh. Mais ça c'est le propre de toute tradition. Voilà, après, le chant grégorien, ben, le produit, effectivement, de certains vont dire de mixage, de plusieurs liturgies, de plusieurs traditions vocales. Mmh. Bon, je ne rentre pas dans les débats, mais en tout cas, effectivement, au moins depuis le 7e siècle, on peut parler, effectivement, d'un chant grégorien, en tout cas d'une matrice du chant grégorien qu'on connaît, nous, aujourd'hui.
Parce que le chant grégorien, effectivement, n'est pas né en 623 ou 624. Il est le fruit d'une évolution et d'une progression aussi.
D'une progression, de stratification, d'une volonté d'unité du chant de l'Église latine aussi, bien sûr.
Et ce chant grégorien, était voué à être chanté par les moines uniquement, dans les monastères ou
c'est le chant propre de, justement, comme vous le rappeliez, comme le Concile Vatican II l'a rappelé, de la liturgie catholique, c'est-à-dire que c'est le chant, on pourrait dire, universel de l'Église.
Mmh. Je vous dis cela parce que c'est
vrai que dans l'esprit... Et qui n'est pas propre au monastère, ça c'est cette idée de compartimentage du grégorien dans les monastères, c'est propre au... Enfin, je pense que ça s'est développé au XIXe siècle et ça s'est un peu cristallisé à l'époque de la réforme Vatican II, où justement où le grégorien était sorti des paroisses. Donc on a eu tendance à dire « Ah ben le grégorien, c'est dans les monastères ». Mais ça, c'est une vision, c'est pas historique du tout, ça c'est une vision moderne, voilà, qui correspond à une repartition de la liturgie qui est en train de changer, je pense, j'espère, à nouveau.
Parce que de ce que vous dites, c'est vrai que le chant grégorien, en fait, faisait partie intégrante de la liturgie classique, dominicale, pour tous les laïcs,
oui,
pour tout le monde. Tout
le monde chantait grégorien. Autant dans les églises, les cathédrales, les collégiales, enfin, il n'y a aucune... Non.
Mais alors, on le sait aussi que le grégorien n'a pas toujours eu n'a pas eu toujours pignon sur liturgie pendant tous les siècles de l'histoire de l'Église. Il y a son apogée, puis après il y a sa plus ou moins disparition aussi.
Alors on ne faut pas vraiment dire qu'il y ait disparition. On peut dire qu'il y a eu des répertoires. On pense notamment à l'époque cistercienne, après aux ordres mendiants avec le bréviaire et d'autres ordres, les ordres hospitaliers aussi, qui ont développé ce qu'on appelle des pleins chants. Mais ces pleins chants s'appuient sur le chant commun de l'Église, qui lui est le fond grégorien. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment déclin du chant grégorien. On peut dire qu'il y a eu des particularités qui se sont développées au Moyen-Âge, qu'on appelle le chant plein chant, chant plane, c'est-à-dire un chant a priori non mesuré, ce qui est très discuté, et qui, avec des chants propres à, pour des cultes voués à des saints, par exemple, selon les saints patrons de l'ordre en question, etc.
Alors c'est vrai que le chant grégorien aussi en dit beaucoup sur la foi catholique, la foi chrétienne, sur la manière dont on prie aussi, d'intérioriser aussi la prière et de réfléchir sur notre propre foi. Vous pensez là aussi qu'il est précisément très, très atypique dans toute l'histoire musicale des religions, si l'on peut dire, que c'est vraiment spécifique à l'Église catholique romaine, comme le rappelait, on l'a dit, Vatican II.
Ah oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un marqueur d'identité, on peut le dire comme ça. C'est très très différent justement de la liturgie protestante, alors luthérienne. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais bon, forcément, en tant que chanteur, je connais le répertoire luthérien, qui est très important dans l'histoire de la musique. C'est vraiment la particularité du chant grégorien et qui fait vraiment l'identité. Et pour moi, l'âme du chant catholique, c'est le mélisme, c'est-à-dire c'est le fait qu'on a deux choses, le rythme du latin en lui-même et la prosodie latine, qui le rythme du latin qui va imprimer le rythme à la psalmodie, la cantillation grégorienne, et puis ces mélismes qui sont un peu des, bon, certains vont dire des mélismes de jubilation, certains vont même parler de glossolalie, c'est-à-dire d'une espèce de métalangue comme ça qui surgirait de la voix. Mais c'est ça l'identité justement du chant grégorien, c'est un chant qui va au-delà de la parole, c'est un chant qui enlumine la parole, et ça c'est important, parce que c'est tout ça à partir de la psalmodie, et c'est ça qui fait l'unité l'identité de ce chant.
Alors c'est vrai que quand on interroge des croyants, par exemple, ou même des mélomanes sur le chant grégorien, beaucoup apprécient le chant grégorien pour ses vertus, si je puis dire, d'apaisement, d'intériorité. C'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de croire, d'avoir une foi ardente pour aimer et pour chanter le grégorien. On peut l'apprécier tout simplement comme une beauté musicale.
Oui, voilà. Alors, c'est sûr que dans les gens qui s'intéressent au grégorien, là, je parle du public justement, des gens que je forme, y a des gens qui sont venus au grégorien par la foi, mais qui sont habitués plutôt à chanter des chants d'assemblée en français, et qui désirent, dans une démarche d'approfondissement de leur foi, veulent revenir au grégorien. Voilà. Il y a aussi des gens qui, eux, ne sont pas du tout catholiques, en tout cas n'ont pas de pratique catholique, ni même chrétienne, et qui s'intéressent au grégorien, mais de manière très approfondie. Il y a aussi des gens qui, chemin faisant, reviennent à la fois catholiques en découvrant le grégorien. Après, ça tout dépend aussi de la soif de revenir aux sources, de compréhension, parce que c'est le désir de revenir aux sources, et donc au grégorien. C'est un désir de compréhension. Et là, c'est que ça pose la question de la transmission et du paradoxe moderne de la transmission, qui est de vouloir simplifier les contenus dont on est des héritiers. Mais le problème, c'est qu'en simplifiant, on risque d'appauvrir. Et finalement, la facilitation de la transmission a un effet pervers dans ces cas-là. C'est qu'elle prive d'une semence, d'une substance qui est importante. Et le grégorien, lui, en est porteur. C'est pour ça qu'il attire. Voilà. Évidemment qu'il stimule l'intériorisation. Mais il ne fait pas que ça, il recrée un équilibre entre intériorité et extériorité. Et c'est ça où on a besoin vraiment d'aide actuellement, où il y a vraiment une confusion entre extériorité et facilité, assimilation plutôt, et intériorité et donc complexité, inaccessibilité, vous voyez.
Tout à fait. On va d'ailleurs y revenir, c'est aussi le sujet de l'émission, bien sûr, sur cette transmission du grégorien. Est-il un art qui se transmet pour tous? Mais avant cela, peut-être évoquer, Frédéric Rentière, ou écouter plutôt, un extrait musical que vous avez sélectionné, Gaude Maria Virgo. Peut-être nous présenter un petit peu ce morceau.
Oui, alors il s'agit donc d'un répond pour la fête de la purification de la Vierge, qu'on appelle autrement la présentation de Jésus au Temple, fêtée le 2 février dans le calendrier catholique, et qui est donc un répond qui magnifie la pureté de Marie, sa virginité.
On l'écoute.
Yeah.
C'était donc un extrait de Gaudé Maria Virgo, effectivement un très beau chant et qui lève un petit peu, on va dire, l'interrogation qu'on pouvait avoir, un peu naïve. Le chant grégorien est aussi chanté par les femmes, Frédéric Rampierre.
Et oui, c'est un scoop, Maxime. Truc incroyable. Mais oui, il a toujours été chanté d'ailleurs autant par les femmes que par les hommes. On le sait bien. Bon, là, la règle de... on ne peut pas dire qu'il était chanté de manière mixte, ça ce serait faux. Même si les monastères étaient encore mixtes au 12e, 11e, jusqu'au 11e, 12e siècle. Mais ils étaient chantés soit par des moniales, soit par des moines, soit par des chanoines. Bon, là, c'était exclusivement des hommes. Mmh. Voilà. Et là, je voudrais insister justement, profiter de l'écoute de ce chant, pour revenir justement sur cette idée de ces mélismes, de ces mouvements de la voix qui sont des mouvements qui partent du cœur. Et qui en même temps se rattache au verbe, se rattache donc à une parole qui est de nature sacrée et qui reprend vie, reprend chair par une expression qui, elle, est travaillée et le fruit de décennies, de siècles de travail. Et c'est ça qui est, je pense, est important parce que la dimension horizontale, c'est-à-dire participative, et ouais. verticale, ouais. Mais la mémoire, justement, la tradition, se réunissent justement dans ouais. la pratique du grégorien.
Alors Frédéric Rentière, c'est vrai que dans les messes modernes qu'on connaît tous, le grégorien est assez peu présent, voire absent.
Oui, il est quasiment, enfin, il est absent où on a quelques lambeaux comme ça qu'on retrouve, mais qui ne sont vraiment des témoignages d'une absence véritable, justement.
Ouais. On a effectivement deux ou trois variations comme ça qui nous font un petit peu penser au grégorien et encore.
Quelques évocations voilà. d'un passé lointain, inatteignable. Et...
mais c'est vrai que c'est vraiment la question qu'on peut se poser, c'est que on a l'impression quand on entend beaucoup de gens d'ailleurs sur cette question du grégorien, on aime écouter le grégorien chez soi dans son salon le dimanche après-midi. Et chanter à la messe, ça paraît complètement utopique. Quoi.
Non, oui, c'est juste alors pour que... s'asseoir, se détendre et méditer.
Mais en, ça, position, c'est la... en position yoga et
peut-être,
puis...
oui, c'est bien probable. Pas pour certains peut-être, mais parce que je n'ai rien contre. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'on ne retrouve pas dans la liturgie, c'est quand même un chant fonctionnel.
Oui, parce que vous le disiez, le chant est quand même partie intégrante justement de l'ornement liturgique, permet à l'âme aussi de s'élever, à aider à la verticalité. Alors c'est vrai que les chants qu'on choisit aujourd'hui dans les liturgies, d'une manière assez traditionnelle, sont des chants plutôt simples, plutôt enjoués. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie dans le chant grégorien. C'est une joie qui est... Alors là, je me rends dans un sujet délicat, qui peut même être polémique, mais allons-y.
Allons-y.
C'est la question justement de la joie. Moi, je pense qu'une joie qui est trop extériorisée cache quelque chose. Elle n'est pas, elle cache un manque de, comment dire, un manque d'ancrage dans notre réalité. Moi, je pense que justement, la joie qu'on trouve dans le grégorien, mais qu'on va trouver dans tout le répertoire médiéval, et après dans le répertoire baroque, le répertoire renaissant, bien évidemment, il y a pas de, et romantique aussi. Mais après, on s'écarte de plus en plus quand même de la source liturgique. C'est une joie méditée. C'est une joie qui est le fruit d'une méditation. Ce n'est pas juste l'expression d'une joie collective. Et là, il y a un dangereux... Enfin,
Il y a un écueil, quoi.
Il y a un écueil et il y a malheureusement un appauvrissement du fait qu'on a assimilé la joie à finalement à quelque chose d'immédiat et qui manifesterait la joie de se retrouver ensemble. Mais malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire plutôt, le christianisme, c'est plus que ça.
Alors c'est vrai que pour avoir cette idée et cette perspective de réintégrer peut-être progressivement dans certaines paroisses le répertoire grégorien, il faut aussi peut-être travailler ne serait-ce que sur la mentalité aussi des gens au sein de la liturgie.
Alors on ne peut pas non plus aborder de front quand il y a un blocage ou des idées reçues sur le fait que le grégorien n'est pas praticable en paroisse. Je parle d'expérience et je pense que beaucoup de confrères me rejoindront. Enfin moi je pense qu'on ne peut pas. Malheureusement, quelqu'un qui ne veut pas entendre, il n'entendra pas et on connaît bien l'histoire. Par contre, on peut des fois opérer des changements en faisant entendre un grégorien qui soit chanté de manière spontanée, vivante, avec une psalmodie qui vraiment fasse vivre le latin, redonne une latinité à la liturgie. Oui, ça j'ai vu des gens, mais des prêtres et des laïcs, vraiment dire « Ah, j'avais vraiment une toute autre idée du grégorien, ça m'intéresse ». Voilà, donc je pense que le changement peut d'abord s'opérer si évidemment on nous laisse... entrer, si on nous laisse aussi proposer quelque chose. La première difficulté, souvent, c'est les a priori. même entre chrétiens, finalement, c'est ça qui est terrible. Voilà. Et c'est justement de faire entendre que le grégorien, c'est pas du tout quelque chose de figé, de stéréotypé, d'enfermé dans le passé. C'est une caricature idéologisée du grégorien, mais ça n'a rien à voir. Hein. Là, je parle en tant qu'artiste, en tant que chanteur. Et justement, parce que j'étais aussi pendant un certain temps artiste de la liturgie, je me considérais comme artiste de la liturgie, mais même si aujourd'hui c'est difficile, parce que effectivement, voilà, on a l'impression que l'art est tout de suite quelque chose qui va bloquer, l'empêcher l'accès, etc. Et là, il faut vraiment nettoyer les bases, quoi.
Parce que c'est vrai que j'ai, dans le cadre d'une série que j'avais réalisée sur les arts liturgiques, on a quand même le sentiment que les jeunes séminaristes, et c'est d'ailleurs les artisans, hein, les artisans de la liturgie qui nous le confiaient sur notre antenne, qu'il y a quand même un retour vers quelque chose de plus sacré, plus mystérieux, plus beau peut-être. Et du coup, c'est vrai qu'après Vatican II, c'est ce que beaucoup d'artisans nous disaient, il y a eu une volonté d'épurer tout cela, mais qu'on a depuis quelques années un retour progressif vers des formes plus traditionnelles, plus classiques de tout cela.
Oui, ça c'est sûr, on peut le constater.
Donc on imagine que ça peut être aussi le cas pour l'attrait, pour le grégorien.
Oui, alors je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour le grégorien. Mais attention, le problème de ça... Enfin, il ne faut pas non plus que le grégorien soit utilisé comme, j'ai envie de dire, un étendard idéologique du retour en force d'une église traditionnelle, etc. Le grégorien.
Parce que il peut être associé effectivement, au mouvement, par exemple, traditionnaliste.
Voilà, en fait. Alors voilà. Moi, je n'ai rien contre le mouvement traditionnaliste. Simplement, ce que je dis, c'est par rapport à ça, c'est que l'essence du grégorien n'est pas là. Voilà. Et l'essence du grégorien, c'est l'essence même de la liturgie pour moi aujourd'hui. Je ne peux pas le dissocier. Donc, sortons d'abord de lutte de clan, traditionnaliste, progressiste. Je pense que pour moi, personne n'a raison dans l'absolu. Et c'est normal, on a besoin des autres. Voilà. Mais revenons surtout à l'essence de la liturgie et à l'essence du grégorien. Et qui est d'abord cette parole qui est à la fois matière, qui est comme une espèce de nourriture, mais qui est une nourriture spirituelle, et qui, elle, qui germine justement dans un champ, et dans un champ qui se partage, et qui en plus donne, qui est accessible à tous les niveaux, puisque dans le grégorien, c'est l'image de la structure de la liturgie, il y en a pour tout le monde. Donc, et cesser de faire croire que c'est élitiste, etc. Alors, il reste le problème après de la formation, qui est le premier problème quand on est sur le terrain. Et moi, je m'y attelle, je connais bien le travail que ça représente. Il faut d'abord trouver des outils pédagogiques extrêmement simples, et ça, le grégorien n'en manque pas, il est fourni, la matière l'est fournie elle-même, c'est-à-dire faire sentir ce que c'est que la psalmodie, l'intérêt, la différence entre juste parler un texte et psalmodier. Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses. Il s'agit du verbe. On passe de la parole au verbe. Et ça, c'est très important dans la catholicité, justement, ce verbe. Alors, résonne, qui retentit dans l'acoustique. Réutilisons nos acoustiques. Cessons d'utiliser des micros systématiquement. On n'est pas dans une réunion entre copains pour se retrouver. On est pour écouter ce verbe qui se répand, qui revient à nous. Et très important, le verbe revient toujours à soi-même.
Frédéric Rentière, qui sont les personnes qui viennent vous voir pour suivre vos cours de grégorien?
Alors, un public très large, et très varié. J'ai donc effectivement des catholiques qui désirent revenir aux sources de leur pratique liturgique. J'ai des non-catholiques, des gens qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité, mais de manière dans un parcours beaucoup plus libre et individualisé. J'ai aussi des gens qui n'ont pas d'avis particulier sur la chose, mais qui sont simplement beaux par des goûts esthétiques. J'ai un public très varié, avec des âges aussi très variés. De plus en plus de jeunes, d'ailleurs. Je dois reconnaître qu'effectivement, l'intérêt auprès des jeunes générations augmente.
Alors, vous le disiez, le chant grégorien n'est pas intrinsèquement élitiste et peut être accessible à tous, vraiment à tous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais vous voir.
Venez.
Et
puis...
et j'arriverai au bout d'un certain temps à interpréter du chant de certains.
Oui, alors bien sûr que si vous voulez chanter tout de suite un graduel ou un offertoire et que vous n'avez jamais fait de chant, par exemple, évidemment, vous allez vous rendre compte de la masse de travail. Mais c'est ça, justement, la dignité c'est une dignité extraordinaire. C'est quelque chose qui a été fait par nos ancêtres et qu'on apprend. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile et gratuit. Maintenant, il y a des antiennes très simples que vous pourrez chanter, que vous pourrez chanter très simples, des psalmodies sans aucune difficulté. Il y a énormément de choses que vous pourrez chanter, les kyrialés, bien sûr. Enfin, voilà.
Alors, on va écouter un dernier extrait que vous avez sélectionné là aussi, Doum et Sept Salvator. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, Frédéric.
Alors, donc, c'est encore un enregistrement que j'ai fait avec l'ensemble médiéval Vox in Rama, dont je suis directeur musical et artistique. Là, il s'agit cette fois-ci d'une pièce. Alors, on ne peut pas dire que ce soit du grégorien en soi, mais en tout cas, ça fait partie du répertoire. C'est un répon extrait du Codex Calistinus, des chants de pèlerins, vers Saint-Jacques de Compostelle, et qui magnifie la gloire de Saint-Jacques.
On écoute un petit extrait. C'est donc un extrait de Doum et Sept Salvator. Donc là aussi, on se sent complètement transporté, Frédéric Rentière. C'est aussi l'une des spécificités du chant grégorien, quoi. C'est que ça nous tire un petit peu de notre routine quotidienne, de l'esprit du monde, quoi.
Complètement. Alors là, vous touchez un thème très important, justement, dans l'histoire du chant en lui-même. Alors là, on s'écarte purement du répertoire en tant que tel, mais du regard qu'on a pu avoir et qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Le chant grégorien, le plein chant et les polyphonies dans la liturgie, tout ça, a pour but dans un premier temps, et ça c'est dit dans beaucoup d'écrits que je connais assez bien, médiévaux et postérieurs, sur le fait que la première fonction, c'est d'abord d'aspirer l'âme, de la tirer en fait des préoccupations, on va dire terrestres, bon, pour qu'elle puisse se tourner progressivement et se concentrer sur justement le verbe de Dieu. Bon. Donc c'est fondamental. C'est pour dire que le chant grégorien n'est pas simplement un instrument de méditation. Il a d'abord une première fonction presque inconsciente de détournement de soi pour s'intéresser, de décentrement de soi et de se détourner pour apprendre à se retourner en soi-même, se détourner de ce qui nous semble le moment le plus important et qui en réalité n'est pas le plus important.
Donc à se convertir finalement.
Oui, dans le sens étymologique. Oui, c'est la conversion au sens grec. C'est-à-dire que c'est qu'un retournement intérieur qui, lui, est une opération qui est essentielle, en fait. On peut même dire que sans cette opération, que se passe-t-il vraiment ?
Alors, Frédéric Rentière, c'est vrai que quand on regarde des partitions de chants grégoriens, on voit des petits carrés comme ça monter,
oui,
descendre.
Les notes carrées,
monter.
Oui.
Voilà, les notes carrées. Oui. Alors, comment, justement, on appréhende un petit peu ces partitions pour chanter ?
Alors, les notes carrées, c'est en fait la hauteur des notes. Hein. Il n'y a pas de rythme dans le chant grégorien. C'est même plus simple à lire qu'une notation moderne. Beaucoup le font le constat quand ils découvrent. Donc, la notation carrée, il y a quelques signes après, ce qu'on appelle des épisèmes qui indiquent si on allonge ou pas, bon, les sons. Mais on a surtout les neumes qui sont des signes plus anciens, à l'époque où on notait simplement les élans, ce qu'on appelle l'ekphonésie, c'est-à-dire la manière de déclamer le texte, les élans, etc. Et donc je m'appuie beaucoup là-dessus, justement, même avec des débutants d'ailleurs, pour qu'ils sentent tout de suite que c'est vivant. Et c'est ce travail-là souvent qui n'est pas fait, cette connexion ou reconnexion qui doit être faite entre la notation carrée, qui est quelque chose finalement d'assez inerte, qui est essentiel parce qu'on a la mélodie, mais qui est inerte en soi, et la mémoire qui, elle, a été notée dans des manuscrits où on a justement la façon de déclamer, de faire vivre le chant. Et même avec des débutants, je le fais, et c'est ce qui fait la différence justement avec un enseignement purement scolaire.
Alors notre émission touche déjà à sa fin, malheureusement. On aurait écouté encore des dizaines d'extraits de chants grégoriens avec vous. Alors il faut rappeler aux auditeurs que vous enseignez donc le chant grégorien, le chant médiéval. Où est-ce qu'on peut vous solliciter, vous contacter, Frédéric Rentière?
Alors j'ai un site internet www.frédéricrentière.com. Voilà. J'ai aussi, donc il y a le site de l'ensemble Vox Inrama, avec lequel donc sur le site Frédéric Rentière, vous aurez tous les stages que j'organise, notamment le stage que je fais en Drôme, à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, en Ardèche, etc. Et puis après, il y a le site de mon ensemble Vox Inrama, où se trouvent les enregistrements, des extraits, les concerts qu'on va faire, notamment sur Hildegarde de Bingen l'année prochaine, en mai.
On va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup Frédéric Rentière pour votre beau témoignage sur le